Vous êtes contre tout, mais vous êtes des emmerdeurs.
En haut, grand littoral, en bas, la mer, d'un côté l'Estac, de l'autre le Cap Pinède. C'est dans ce périmètre, que l'on appelle le bassin de Séon, que l'on trouve par exemple Saint-Arnly, Saint-André, Plandao, la Bricarde, la Castellane, Somaty, Mouropiane et bien sûr le port autonome. Un bassin de Séon qui représente une part importante des quartiers nord de Marseille, en surface et en habitants. Un bassin fait de terres argileuses et de sources souterraines où se pratiquait au début du siècle dernier l'élevage, puis il y a eu les usines et les fabriques, de tuiles notamment, compte tenu de l'argile. Et aujourd'hui que les usines et fabriques ont fermé, les unes après les autres, ce sont de nombreux programmes immobiliers, zones franches avec bureaux vides à louer, pavillons, jardinés ou appartements de terrasse en résidence avec vue sur la mer, et zones commerciales qui ont pris le relais. Ça s'appelle la redynamisation des quartiers nord. Mais le problème avec cette terre argileuse où des eaux souterraines circulent abondamment, c'est que les projets immobiliers, une fois construits, ont une méchante tendance à glisser. Entre 1995 et 2000, le cinéma pâté de Grand Littoral, le collège Henri Barnier et quelques villas en ont fait les frais. Cela ne freine en rien les appétits immobiliers des promoteurs qui, trouvant là du foncier disponible à très bas prix avec vue sur la mer, sont bien décidés à en tirer profit et construisent à tour de bras avec la bénédiction de la municipalité. Les mêmes causes entraînant les mêmes effets, ça continue de glisser. Des murs se fissurent, des jardinets s'effondrent, des trottoirs s'affaissent. Dernière en date, début novembre 2011, la colline du Régali dévale sur la terrasse d'un appartement neuf où vit une famille depuis 15 jours, délogée de son ancienne maison par un promoteur qui a racheté le terrain pour construire un autre immeuble.
Les murs en tuiles.
Des accidents successifs qui rendent furieux plusieurs groupes d'habitants de ces quartiers, dont l'association Cap au Nord. Des habitants qui ne comprennent pas que la municipalité continue à autoriser de tels terrains instables à la construction. Et qui par-dessus tout se sentent méprisés depuis longtemps par les autorités, mairies centrales et ports autonomes, qui, au prétexte du développement économique de la ville, dégradent sans complexe un cadre de vie bien réel. Car côté mer, ce n'est pas mieux, avec depuis 50 ans la confiscation du bord de mer par le port autonome de Marseille et les nuisances liées aux activités des usines installées sur le port, en face des maisons. Un tout nouveau projet de gare ferroviaire au pied de ces mêmes maisons, avec 10 faisceaux de rails et des trains de 800 mètres de long, n'est pas fait pour arranger les choses. Radio Grenouille est allée à la rencontre de quelques-uns de ces habitants de Mouropiane qui nous ont entraînés, côté mer et côté colline, dans les rues et ruelles de Mouropiane pour témoigner de leur quartier. On commence côté mer, on se rencontre au bar maritime de Mouropiane, chemin du littoral. Jean-Pierre Hérault habite à quelques mètres de là, sa maison surplombe le chemin du littoral. De l'autre côté du chemin, qui n'a de chemin que le nom, c'est plutôt une voie de circulation rapide pour poids lourds, le royaume du port autonome, comme l'appelle Jean-Pierre Hérault.
Vous êtes contre les avions, contre les immeubles, vous êtes contre tout, mais vous êtes des emmerdeurs.
Voilà, on traversait et on allait se baigner. Et il y avait en plus, à l'époque, le tramway, qui a plus aujourd'hui. Je suis né sur la colline, sur le plateau là-haut. Et effectivement, sur le plateau, on n'entend plus la route, mais on entend les avions. Bon, moi ici, j'entends la route, mais j'entends pas les avions.
Si on entend le déchargement des conteneurs.
Vous entendez de là-haut ?
Quand
ils tombent. Et par les jours de grand mistral, ce qui est très très joli à voir, c'est que les empilements de conteneurs tombent. Des pans entiers de conteneurs qui se... Ça a fait un bruit incroyable. Quand j'étais gamin, je traversais le littoral et j'allais me baigner. Ma maison s'appelait, parce qu'on ne l'appelle plus comme ça du tout, vous n'avez pas de raison, elle s'appelait les Rives d'Or. On voyait la mer, on descendait, on traversait la route, on allait se baigner. Et aujourd'hui, c'est une gare de triage. Ça a été déjà mis en service. Puis ça a été abandonné parce que le port a eu d'autres projets et qu'il voyait que ça ne marchait pas. Et maintenant, c'est repris parce qu'il y a d'autres choses qui ne marchent pas et qui veulent faire ça pour, en tant que projet novateur. Mais bon, ce n'est pas novateur du tout. Le souci, c'est que nous, habitants, on se retrouve face à encore un souci supplémentaire, c'est-à-dire des camions, des trains, du bruit, de la lumière, comme si c'était le Stade de France, de la pollution, de la poussière. C'est incroyable la poussière qu'il y a ici. C'est une zone industrielle que le port autonome, que moi j'appelle le royaume du port, a mis en place. Il a fait ce qu'il a voulu, comme il a voulu, évidemment pour l'économie de Marseille, mais aussi au détriment des habitants, donc des Marseillais, en leur mettant des grilles sous le nez, et en oubliant que l'économie de Marseille, c'était aussi l'économie des Marseillais. Et donc cette économie, nous n'en faisons pas partie. On est tributaire de l'économie, certainement des quartiers sud, ou d'autres personnes, ou de promoteurs, ou d'un sens politique de l'avenir, j'en sais rien. Mais je ne pense pas qu'on construise l'avenir en implantant dans des noyaux villageois, ou de quartiers, ou dans des habitations, des industries. Hier soir, je regardais à la télévision, il parlait de Fezzen, il parlait de... d'autres sites en France qui sont des zones à haut risque, parce qu'il y a vraiment des risques, par exemple à Fezzen, d'explosion, etc. Et ils ont une chose bon, qui est ce qu'elle est. Le maire de Fezzen a mis en place une concertation permanente entre la mairie, les habitants et l'usine de Fezzen. Et c'est le directeur lui-même qui se déplace pour aller rencontrer les habitants, et ils font des réunions toutes les semaines pour dire qu'est-ce qui se passe, comment ça évolue, etc., etc., etc. Nous, quand on demande de voir quelqu'un du port, quelqu'un n'importe qui, on n'a jamais personne. Il n'y a aucune concertation, même pour savoir où on va, même pour savoir ce qui se passe.
Et à l'époque, quand le port a donc confisqué ce littoral marseillais des quartiers nord, est-ce qu'il y a eu des mobilisations aussi d'habitants qui protestaient?
Alors, Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Quand il y avait le petit port de pêche ici, et qu'il y avait des sociétaires qui avaient leurs bateaux, leurs barques, etc., les pêcheurs, le port est allé les voir et leur a promis de les installer ailleurs, de façon beaucoup plus confortable, avec bon, voilà, tout un tas d'avantages, etc. Et ils ont accepté. Donc la population de Mouropiane, à une certaine époque, a accepté que le port vienne empiéter et bouche leur mer. Voilà, parce que... Voilà.
Au nom du Saint-Conseil-Emploi aussi.
Au nom de l'emploi, au nom de l'esbrouf, au nom de ce qu'on veut, etc. Donc les pêcheurs, tous les plaisanciers et les pêcheurs qui étaient sur le petit port de Mouropiane sont actuellement à l'Estac où ils ont été relogés. Et voilà, une fois que la souricière était tendue, ben, c'était fini.
Michel Rosier.
Alors l'ouverture de la gare de Mouropiane, c'est un faisceau de 10 voies ferrées où il va y avoir 300 camions jour, 10 trains de 800 mètres de long. Ça va démarrer de la porte 4 à la porte 5. À l'intérieur du port, et le faisceau le plus large sera devant la falaise de Mouropiane, où il y a les trois quarts des habitations quand même, hein, voyez un peu, nuit et jour. Alors bien entendu, comme après, il y a une question de rentabilité. Alors nous, on est pour le ferroutage, bien entendu, seulement pas à n'importe quel prix et pas n'importe comment, parce que le problème là qui va se poser, c'est que les containers, parce que c'est prévu initialement pour des containers qui arrivent par bateau, mais ensuite, comme ils enlèvent la gare du Canet pour laisser l'espace à Euroméditerranée, hein, bien entendu, la gare du Canet va délocaliser et on va avoir une noria de camions. Alors déjà qu'on est noyé de camions, on va en avoir encore plus. Donc plus de pollution, plus de dangerosité, plus de bruit, toutes les nuisances possibles. Alors stop là maintenant, il faut arrêter. Vous voyez les voitures garées là, le petit muret?
Oui.
Voilà, la mer venait là. Donc ils ont gagné tout ça. Et tout ça, ça a été du remblai. Ils ont arasé une colline pour remblayer tout ça. Alors ça s'est fait dans les années 48 et le remblaiement s'est arrêté en 50. Parce qu'ici, vous voyez ces parcs à voitures, tout ça, on faisait l'élevage de moules. Mais c'était un truc, mais tout le monde avait accès à la mer. Il y avait le tram, c'était très moderne, il y avait le tram qui passait jusqu'au vieux port. Hein. Moi, je l'ai pris, j'ai pas 100 ans. Hein. Voilà. Et ils ont remblayé tout ça. Voilà. Alors vous voyez les grands faisceaux, voilà, vous voyez tout ça. Alors tout ça, ça va être changé. Et on va avoir ça sur le devant, Mouropiane, pour bien qu'on ait du bruit. avec les camions qui vont tourner, parce que de toute façon, il n'y aura pas que les containers qui vont partir en ferroutage, il y a des containers qui partiront en transport routier, ça c'est une évidence, ça c'est sûr et certain.
Et le terrain qui va être aménagé, c'est ça là avec
tout ça, de la porte 4, de là-bas, jusqu'à la porte 5 qui est là dans le virage, tout ça. Voilà, ils vont réouvrir avec des trains de 800 mètres de long. Et le pire, c'est qu'à la porte 4, il va enjamber l'autoroute et il va passer au milieu de la cité console à Mirabeau, qu'il va couper en deux. Le train il va passer au ras des immeubles. Et après, on dit que dans les quartiers nord, on fait beaucoup de choses pour les nuisances. Ça me fait rigoler.
C'est-à-dire que les nuisances, ce sont les habitants. Ce qui est sûr, ça serait bien qu'il n'y ait plus d'habitants.
Il y avait les machines de date de 2007, non ?
Oui, il y avait des. Parce qu'après, ils vendent à des Anglais qui ne sont là qu'un mois par an et ça suffit.
Mais là, ah, voilà. Industrie et résidence secondaire.
Et oui, c'est la France. La France ne va devenir qu'une gigantesque chambre d'hôtes.
Parce que là, ici, il faut dire une chose, c'est qu'on avait Tanker Service. C'est-à-dire qu'il y avait des pétroliers géants de 500 000 tonnes qui arrivaient sur le port, là. Ils dégazaient leur tanker, donc c'était hautement dangereux. Il y a eu des explosions à droite à gauche. Et donc, cette installation qui était devant les fenêtres des Mouropianais, c'était des torchères, c'était des bacs de gaz, c'était des installations incroyables devant les fenêtres des gens. Voilà, c'était bien, bien pire que Fezzin.
Une catastrophe évitée.
Voilà, et je ne sais pas si vous imaginez un pétrolier comme à l'époque, le Bathylus, qui faisait 500 000 tonnes de pétrole brut, qui se faisait dégazer ici, quoi. C'était énorme. C'était des bombes, et d'ailleurs, ça a sauté, ça a brûlé. Et du fait, donc, de cette énorme catastrophe, avec des morts, des brûlés, des blessés, etc., ils ont arrêté à ce moment-là. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une catastrophe, toujours pareil, hein, une catastrophe pour que les choses s'arrêtent. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils ont construit à la place un espace vert, hein, ou une plage. Hein. Ils ne l'ont pas fait.
20 ans après, ils ont mis TPA.
20 ans après, ils ont mis TPA, c'est-à-dire encore une station de dégazage. Je pense que 20 ans, ça permet aux gens peut-être d'oublier, de temporiser, de dire, bon, maintenant on ne fait plus pareil, on construit mieux.
Là, vous avez donc la baie de l'Estac. Alors, vous voyez, à la place de ça, on avait une plage, il y avait la mer. Ici, la forme 10, c'est la forme, la plus grande forme d'Europe, du bassin méditerranéen, la plus grande forme d'Europe, qui, à l'époque, pouvait accueillir les supertankers qui se faisaient dégazer ici. Ce que je vous ai montré, c'est l'incendie de Tanker Service en 79, mars 79, où on nous avait dit, à l'époque, on faisait venir les gens du CNRS, hein, et la personne m'avait dit, voyez, une bouteille de gaz dans un immeuble, ce que ça fait. Un bateau de 600 000 tonnes qui arrive, qui n'est pas dégazé, c'est... D'accord ? Nous, on n'existait plus. C'est pour ça que quand je parle de rescapés, je ne dis pas n'importe quoi. Et ça n'a pas empêché, 20 ans après, ils nous ont resservi le même truc. C'est-à-dire que c'était un gestionnaire de pâtes, là, qui a repris cette activité qui est très juteuse. Et qui s'est mis à acheter un chaudron et à faire retourner et à faire chauffer les hydrocarbures. Donc pendant 7 ans, ça a été un combat sans merci. On ne pouvait plus sortir, nous, dans le jardin. On ne pouvait plus respirer, on avait des problèmes sanitaires, les yeux. Bon, c'était une horreur. Et au bout de 7 ans, entre-temps, ça s'est revendu donc, à Veolia. Et Veolia, donc, on a eu la chance de tomber sur des gens plus que corrects et qui étaient tout à fait d'accord qu'un truc comme ça, ça n'avait rien à voir ici, quoi. Je veux dire, vous voyez, ça, c'est le port. Parce que le port avait été interpellé. C'est quand même le bailleur, le port. Si vous avez une propriété avec un voisin gênant, à un moment, on va interpeller le propriétaire. Le port disait, ah mais nous, on loue le terrain, mais après, ils font ce qu'ils veulent. Mais j'ai dit, nous, on n'a plus le droit d'avoir de vie. Moi, je brûlais toute la journée de l'encens, je brûlais des trucs, des huiles essentielles. Je ne pouvais plus sortir dans mon jardin. C'était l'œuf pourri. Voilà, c'était une horreur. Et au bout de 7 ans, on a réussi, par notre combat, à faire délocaliser donc, la chaudière de TPA, travaux d'assainissement et de pompage, qui s'est délocalisée sur Foss, sur un site qui est magnifique, puisqu'on l'a visité, on est en très très bon terme avec le nouveau directeur. Là. Et voilà, je veux dire, le problème a été résolu. Mais si on ne s'était pas battu, on pourrait encore sentir tout ça. On n'a plus de vie, quoi. On nous méprise. Quand je dis qu'on est vraiment méprisés, on est des citoyens méprisés ici, dans ces quartiers. Hein. Franchement.
Qu'est-ce qu'on fait ? On laisse les voitures là.
On y va à pied.
J'en de Mourcan à Vous entendez ?
Vous écoutez La Grenouille, on se balade côté mer à Mouropiane avec un groupe d'habitants qui nous fait partager son attachement à ce quartier et leur colère de le voir se dégrader sans cesse. Dernière colère en date, le glissement de terrain de la colline du Régali à Mouropiane début novembre. On part donc côté colline en compagnie de Michel Rosier, Anne Garité et Ange et Rose Sinibaldi jusqu'à la colline du Régali.
Pour enregistrer ça.
Mais c'est fait.
Donc on laisse les voitures là.
Alors Anne-Marie, là on a entendu d'anciens habitants, mais vous qui êtes nouvelle, quel est votre ressenti sur ce quartier alors? Anne-Marie Lapillonne.
Le noyau de Mourpiane, je trouve que c'est presque un petit ghetto de petites maisons. Quand on a la chance de ne pas entendre le bruit, etc. On a des jolies maisons, on va en voir une magnifique, on a des jolis jardins, etc. Là où je suis très très malheureux, c'est qu'il y a un environnement complètement déplorable. Moi j'adore marcher, il n'y a aucun endroit où marcher, sauf de faire des randonnées en pleine forêt de containers, de décharges sauvages, d'ordures en tout genre, ou de zones franches et des étendues de toits, d'entrepôts à perte de vue. Enfin, je veux dire, l'environnement en sortie du noyau de Mourpiane, c'est une agression esthétique permanente. Moi, j'y suis très sensible, quoi. Voilà, on est dans une maison absolument sublime.
Ça, on a demandé la requalification de l'ensemble de la colline de Mourpiane le Régali en espace remarquable. On a fait, en tant qu'association Cap au Nord, cette année, en début d'année, le patrimoine au naturel. Voilà ce que nous voyons sur la colline du Régali, hein, puisque les immeubles sont juste à côté. On a recensé plus de 100 espèces différentes de fleurs. Il y a une fleur protégée qui est inscrite au livre rouge des espèces menacées. Nous avons une nidification de huppes faciées. C'est exceptionnel, ça. En milieu urbain, il n'y en a pas, ça n'existe pas. D'accord ? Voilà. Et on a cette fameuse fleur, le Teucrium pseudocamelepitis, qui est une fleur quand même qui ne pousse dans un seul endroit en France, ici à Marseille, sur la colline du Régali. Voilà. OK ? Voilà ce que nous voyons. Des orchis géants, tout ça, je veux dire, ce ne sont pas des délaissés. Ce sont des choses, je veux dire, c'est encore un poumon vert dans ces quartiers, je ne vois pas pourquoi ça serait bétonné et de quelle manière ça l'est. Voilà. Donc et ça, on a demandé le reclassement en espace remarquable.
Parce la que deuxième, pour l'instant, oui. Il n'y a pas de classement de cet espace?
Non, non. Pour l'instant, donc, vous savez ce qui va se passer là-dessus?
Il peut y avoir des projets de construction.
Voilà. Alors justement, comme je vous disais, ils sont sur les starting blocks et le starting block est parti. Il a laissé, voilà, les futurs docks de la mer. Voilà. Voilà ce qu'on va avoir sur la falaise de Mouropiane, au pied de la falaise. Voilà. Regardez. Cette belle construction. Ce sont des bureaux. Donc, c'est notre ami Xavier Jocanti, qui est l'époux de Christine Lagarde, qui a eu ce projet sur la colline du Régali, là où pousse la fleur, donc, qui normalement ne doit pas être détruite. Hein. Il en a détruit une bonne partie de la station, du reste. Donc ça, c'est toujours la continuité de la zone franche de Somaticéon, avec une hauteur de surélévation maximum de 14 mètres. Lui, s'est permis de vendre ses plaquettes à 21 mètres. Donc on a fait rabaisser déjà, on a gagné auprès du commissaire enquêteur, et l'enquête publique le maintient à 14 mètres. D'accord ? Nous avons remis au commissaire enquêteur un petit fascicule de tous les milliers de mètres carrés qui sont alloués sur la zone franche, les mètres carrés de bureaux alloués, qui ne sont toujours pas loués, ils ont beaucoup de peine à le faire. Et là, il en remet 14 000. Qu'est-ce que vous comprenez, vous ? Normalement, je ne sais pas. La logique, c'est quoi ? Vous faites une étude de marché avant de... Je ne sais pas. Un commerçant qui s'installe, il sait très bien qu'il va s'installer parce qu'il a fait des études de marché. Il va dire, bon, je vais vendre mon pain ou mes médicaments ou mes cigares, peu importe. Là, vous trouvez que c'est logique ? Voilà. Alors en plus, je vais vous dire, les mauvaises manières de M. Lagarde, c'est pas moi qui le dis, hein, il a été mis en examen. Et tout, hein, ok ? Voilà. Ça, c'est que, voilà, ce qu'on... On déplore ça, cette urbanisation dans ces quartiers, à n'importe quel prix et par n'importe quel moyen.
On avait même réussi à se faire recevoir par Mme Servan. Mais bon, voilà, il nous avait dit que de toute façon, s'il y avait quoi que ce soit, on nous ferait déménager.
Donc, Anne Garité.
Elle nous avait accueillis en disant « Ah, ben, je vous donne une bonne nouvelle, je viens de signer un permis de construire d'un deuxième étage sur Grand Littoral. » Donc on lui avait dit « Mais vous n'êtes jamais allé, vous ne savez pas de quoi vous parlez. » quoi. C'est Grand Littoral, les parkings, là, ça tient avec les piliers de chantier, là, hein, le truc en ferraille, là. Hein. Tout le temps, ils sont en train de... de réparer. Et donc nous, moi j'avais amené des photos de ma maison, des fissures, de ce qui se passait, en disant qu'au moins le promoteur vienne, fasse un tour des maisons autour, voir comment est le terrain, qu'est-ce qui se passe. Et c'est là où elle nous avait dit, on en a fait déménager d'autres. Voilà. Vous ne croyez pas que vous allez avoir le monopole de la vue sur mer.
Exactement.
Je pense que...
Et voilà. Moi, m'a dit, monsieur Pagé, vous n'allez pas m'enlever la mienne de dire de vue. Parce que moi, je respectais parce que je n'allais plus rien y voir avec l'immeuble du Charron. Et il me dit, mais vous n'allez pas m'enlever la mienne. C'est-à-dire que lui, acheté pour la vue sur mer, il faut qu'il ait sa vue. Nous sommes les autochtones, on n'a plus droit à rien. Voilà, on a eu 20 ans de vue sur mer ou plus. C'est terminé.
Bonjour. Salut, Mireille. Bonjour. Bien.
Voilà. Alors ici, quand vous étiez là, sur ce talus, on voyait 63 cheminées d'usines à tuiles. Vous voyez, Grand Littoral en face. Et à l'emplacement de Grand Littoral, il y avait le château des Tours, qui est devenu après le château Foresta. Et sur les contreforts de la colline, il y avait des pâturages. Et ma mère, qui était fille de laitier, mon grand-père avait une propriété en bas, Saint-André, elle amenait donc son bétail paître sur les flancs de Grand Littoral, de Foresta. Voilà. Et ma grand-mère, elle était...
Le bassin de Séon est un gisement d'argile. Ces gisements d'argile, en fait, ce sont des argiles extraites et ensuite comblées par des trous d'eau, parce qu'il y avait 83 sources sur la colline de Grand Littoral. Donc c'est que de l'eau, c'est une humidité, donc les sols, c'est 43% d'humidité, puisque les études géologiques révèlent 46% d'humidité. On construit sur de l'eau. Alors on peut faire tout ce qu'on veut, des pieux, ça ne tiendra jamais. Voilà. Donc Grand Littoral, il y a 20 ans, ça n'a pas servi. On nous resserre le même remake 20 ans après. Alors là, c'est les gens qui sont dans des situations plus que précaires, parce que ce sont des gens qui ont payé un logement, qui ne peuvent pas y habiter. Ils ont des traites, bien entendu, tous les mois, et ils doivent se reloger dans des abris, enfin, des trucs de fortune. Il y en a un qui est en chambre d'hôte depuis 6 mois. En Suez, la redonne, je veux dire, c'est scandaleux, quoi. Et on continue. Alors là, la troisième tranche de ce complexe d'immeubles qui s'appelle le Charron. Voilà, ça c'est les grillages donc, qui ont été balisés par le promoteur. Et sur cette rivière de résurgence, ils veulent construire le troisième immeuble. Voilà.
Là, on arrive sur le lieu du délit. Le vrai. Voilà. Donc ça ne gêne personne qui a des fenêtres qui ne puissent plus ouvrir. C'est des clochards qui vivent ici, alors c'est normal dans le nord, dans les quartiers nord. Hein.
Ah oui, donc c'est toujours c'est la même colline qui glisse, quoi. D'accord.
Donc ils avaient mis des murs, c'est pas des murs, c'est de la décoration, hein. Des blocs de parpaings. Et on va voir, ils se sont cassés la gueule sur les terrasses.
Là, il n'y a que les terrasses abîmées ou...
Oui, c'est... heureusement, il n'y a que les terrasses abîmées.
Il y a tout le mobilier de jardin, quoi. Ouais. Les trucs qu'ils avaient, les tables, on leur tout.
Heureusement, il pleuvait et les enfants étaient à l'abri à l'intérieur. C'est une chance.
Il y a eu des trucs comme ça, la Valentine, si vous voyez.
Mais c'était à la suite de ça, quand on avait vu Servan, il avait dit, mais à la Valentine, ça s'est passé 15 jours après, les gens, ils ont la maison qui s'est effondrée. Ouais. Il y a des gens qui sont en prison, et puis on les a réaménagés, on les a...
Relogés.
Ils vont pas se plaindre.
Pourquoi ?
Parce que c'est chez moi.
Venez voir.
Moi, c'est un article alors que vous allez faire de 5 pages. Hein,
non, mais attendez, je fais du montage.
Moi, je m'appelle M. Sinibelli. Depuis qu'il y a eu l'effondrement là, du Régali, là, de... et figurez-vous que la mienne s'en va aussi. Alors là, et je suis en face, la mienne, elle est bon, la mienne est âgée, elle doit avoir 100 ans. Mais avant que ça glisse, ma maison était entière. Maintenant, il ne m'en reste plus que la moitié quoi, de ma piole.
C'est-à-dire ?
Alors, C'est-à-dire toute ma maison, quand il y a eu le glissement de terrain, parce qu'eux, ils s'imaginent que le glissement de terrain s'est arrêté à leur maison, à eux. Mais il est venu même sous la mienne.
Il n'y a pas que les constructions neuves qui ont été...
Non, toutes les constructions vieilles de la rue, ils sont toutes fendues, là. Alors moi, j'ai envoyé une lettre pour les assigner en tribunaux.
Quels sont les dégâts dans votre maison?
Complètement fendues, tout. Les malons qui se cassent, les murs qui s'ouvrent, tout. Les portes qui ne ferment plus rien. Parce qu'eux, ils croyaient que ça bouge que chez eux. Parce que quand on fait une construction comme ça déjà, on veut faire une construction, déjà à l'époque, on envoie un expert pour faire une visite chez les gens. Après, on met des capteurs à combien on doit vibrer, à combien on doit faire ci, à combien on doit faire là. On ne fait pas passer des poids lourds à 100 à l'heure, chargés de 10 tonnes ou 20 tonnes de gravats quoi, ou de ferraille. On ne jette pas tout par terre. Il y a les vibrations quand on vibre. Avant de vibrer, on capte, on dit on doit vibrer à deux. Eux, ils vibrent, ils s'en battent les couilles de vous. Hein. Eux, ils arrivent, toi, tu as un confini, là, allez, en avant la musique. Là. Moi, je suis milliardaire et toi, tu es un poché. Mais bon, voilà, la différence est là. C'est ça, mais moi, je demande réparation totale de ma maison. Totale, hein, d'en haut jusqu'en bas. Et on les a convoqués. Bon, je pensais qu'il devait être à la réunion. Il devait y avoir deux de la mairie, je pense, de l'urbanisme. Ils se dérobent, c'est qu'il y a un problème déjà là. Le promoteur, il se dérobe aussi, tout le monde se dérobe. À savoir à qui il faut s'adresser, là. Voilà. Il faut savoir qui c'est qui prend les responsabilités, ouais, comme le dit madame. Quoi. Voilà.
Bonjour.
Bonjour.
On vient voir là.
Toute puissance.
Vous étiez là quand ça s'est passé?
Non, moi j'étais pas là. C'est mes parents qui habitent là. Moi j'étais pas. Donc, il y avait des grosses pluies, j'habite pas là.
Il y a quelqu'un qui peut venir parler, votre papa peut-être, non?
Ben, il est là, mon père.
Oui, il est... Ça va? Oui, ça serait bien qu'on puisse... Venez voir la terrasse.
Elle t'a piqué ton ballon.
Voilà, regardez. Donc, le mur est descendu. C'est la photo que je vous montrais tout à l'heure.
Ouais.
Ce sont des constructions Lego, puisqu'il n'y a même pas de ciment. Hein. Je veux dire, avec les fortes pluies qu'on a eues, donc l'épisode il y a 3 semaines, tout est parti. Donc ça s'est produit la nuit, fort heureusement, parce que c'était une terrasse, vous voyez, ce qui reste des meubles.
Ouais,
voilà.
Ouais.
Et là, c'est le promoteur, dans un premier temps, avait mis des madriers, puis là, ils ont fixé avec... Et ils sont dans la nuit, il n'y a plus de jour, quoi.
Voilà. Pour protéger, si jamais...
Pour protéger, parce que si
continue,
ça... Voilà. Voilà. Mais c'est que de l'argile qui va tomber. Donc là, quand même, ça...
Et ça, c'est du logement social, c'est l'HLM?
Ça, c'est Heredia. Voilà, ça, c'est du logement social. Mais
d'accord.
C'est pareil, je vous dirais, paye leur loyer.
Oui, non, bien
c'est
sûr.
C'est une honte, quoi.
Au voilà. Contraire.
Bien sûr, non, mais...
Parce qu'ils habitaient dans une maison en bas, que Projet Réal donc, a racheté, et donc expulsé, et ils sont relogés
ici.
Pour construire le gros immeuble, le Charron. La maison, c'est une vieille maison, on va la voir, elle est tout en tuiles.
Le gros immeuble, le Charron, celui qui va être là.
Oui,
là.
Voilà.
D'accord. Qui va empêcher la vue et tout ça. Là.
C'est une vieille maison, une vieille bastide, tout en tuiles, c'est le...
Voilà, il va vous dire ce qu'il a entendu quand ça s'est produit pendant ces grosses pluies qu'on
Bonjour.
A eues, où tout le monde
Bonjour.
A eu des... Voilà, c'est le monsieur qui habite là.
11h du soir.
11h du soir, oui.
Oui, moi j'étais au premier là. Alors comme il est tombé le break là, il est tombé sur le...
les panneaux.
Il est tombé sur la table et les chaises. Il est tombé bien. Après j'ai regardé, j'ai vu tout le mur qui est tombé. C'est ça que ça arrivait.
Vous avez dû avoir peur que ça arrive.
Bien sûr, bien sûr. Moi, je croyais qu'il rentrait dedans.
Oui.
Et maintenant, alors, ils vous ont barricadé les fenêtres, tout ça et tout. Vous êtes dans le noir dans la maison.
Ouais. Ouais.
Et jusqu'à quand?
Je ne sais pas.
Alors, moi, je vais parler pour
qu'est-ce lui. Qu'il vous a dit
le temps que les assurances se mettent d'accord. Parce que Heredia a été bâti par Projet Réal. Projet Réal a fait bâtir par un sous-traitant. Maintenant, le temps que l'assurance se mette en rapport, là, ils vont en avoir pour longtemps. Parce que nous, on demande à ce qu'on lui supprime le loyer. Il ne faudrait pas que ce monsieur paie le loyer. Il a une maison où il ne peut pas y habiter.
Aucun jour qu'il rentre dans la maison, il se retrouve dans le noir toute la journée. Ce n'est pas évident pour des parents, des personnes adultes, des personnes âgées qui viennent de quitter une grande maison comme celle-ci, qui se retrouvent barricadées dans un petit T3. Donc, ce n'est pas du tout...
En plus, il ne peut pas jouir, attention. Et lui, parce qu'il faut dire ce qu'il est, bon, sa mère son oxygène, parce qu'elle est malade, elle a peur. Lui, il a toujours peur. Bon, vous savez comme c'est, les personnes âgées. Il regarde toujours en bas, je crois que bientôt, il va prendre le lit, il va aller dormir en bas, lui. Eh oui. Et non, mais c'est la vérité. Donc, moi, j'estime que, là, vous pourriez le dire, C'est inimaginable qu'on puisse lui faire payer encore un loyer, à lui et au voisin, là, d'à côté, là. Voilà, ça, c'est encore son rêve. Alors, entrer par ici, tu as qu'à voir.
Quand il pleut... Tu as vu le dessous de la route,
ouais, là ? Ouais. Alors, l'entrée, elle se fait là. Quand il pleut, ben...
Ah ouais, c'est joli.
Tu as l'eau qui rentre chez toi. Il n'a pas fait l'entrée là, c'était plus haut, il a fait l'entrée là.
Bon. Vous avez travaillé pour ce promoteur, vous ?
Moi, j'ai travaillé avec le père Pagé, mais c'était pas le père Pagé à l'époque. J'étais un des premiers tâcherons, hein, quand on a monté l'équipe de tâcherons. Vous savez qu'on coulait trois planchers par jour, nous, à l'époque. Bon, ça n'a jamais tombé, hein, tour des Catalans, j'ai tout fait. Mais après, j'ai fait le VRP, j'ai trouvé que c'était trop compliqué, ça ne servait à rien de... Tu travaillais comme ça, bon, tâcherons, tu gagneras. Moi, j'ai pas honte de le dire. Plus tu en coules, plus tu encaisses. Et on arrivait à faire deux, trois planchers. Saint-Opis Cayol, il était associé avec Cayol, et le père Cayol est mort. Comme le fils n'était pas Cayol, n'était pas assez dégourdi, c'est lui qui a tout qu'à monter, l'affaire, hein, son fils. Maintenant, c'est l'association, son fils, sa fille et lui. C'est Projet Réal, Pont Montréal et l'autre nom. Et l'autre, je ne sais pas l'autre nom. J'ai mémoire les villas qu'il a fait là-bas.
Mais c'est quoi ça ? C'est quoi ?
C'est lui qui les a faites.
Oui, mais pourquoi c'est comme ça ?
Ben parce qu'il a vendu là, il a été obligé d'abandonner le projet, je ne sais pas ce qu'il y a eu là. Peut-être que les maisons ont bougé, je ne sais pas.
Et ça reste ouvert comme ça ?
Ça reste ouvert comme ça, ça m'étonne que ce n'est pas squatté. Bah, tu as remonté capillaire, bon, tu as tout abandonné, quoi, disons. Bon, on ne sait pas ce qu'il va en faire, hein. Ça je ne peux pas le dire, moi je ne sais pas. Voilà, tu as encore une ici, puis après ça va attaquer l'autre et l'autre, ainsi de suite. Voilà. Et après vous avez la maison de madame qui se trouve complètement en bout là-bas.
Et au-dessus, c'est la fameuse...
L'espace boisé. Allez,
l'espace boisé, d'accord. Fin de cette balade donc au sommet du rocher de Mouropiane, un îlot de verdure qui vient d'être racheté par le promoteur Projet Réal. Ce promoteur qui a construit les maisons et immeubles que l'on vient de décrire, ce qui fait donc craindre aux habitants la disparition de cet îlot de verdure au profit d'un énième programme immobilier avec vue sur la mer. Nous étions à Mouropiane et sur la Grenouille en compagnie des habitants de Mouropiane, Michel Rosier, Anne Garité, Rose et Ange Sinibaldi et Jean-Pierre Hérault tout au début de ce reportage. Merci d'avoir été à l'écoute. Plus d'informations sur ce quartier et quelques autres sur le site internet de l'association Cap au Nord, marseille-cap-au-nord.blogspot.com. D'accord. Ah, la petite rue là.
Tu te sens jamais seul. Ça, c'est Marseille. Je trouve ça super. C'est profond, Marseille. Il y en a dans tous les quartiers de Marseille. Bien sûr.